1914, Pétain a 58 ans et il est tout près de la retraite. Et il n'est que colonel. Il aura fait une carrière militaire pas tellement brillante, un peu médiocre, puisqu'il ne va pas même terminer général. Mais voilà la guerre, on a besoin tout de suite d'un commandant nouveau. Et dès la fin du mois d'août 1914, il est nommé enfin général de brigade. Et comme la situation est, pourrait-on dire, propice au avancement accéléré, le voici en juin 1915, c'est ça, en juin 1915, qui est un commandant de corps d'armée. Il était là assez tranquille au château de Noailles, près de Beauvais, lorsque le 24 février 1916 arrive à son quartier général un télégramme. Il n'était pas là. C'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant n'est pas indécente du tout, souriante tout au plus, a été racontée par Henri Amouroux dans son livre sur Pétain avant Vichy, et vous savez qu'Amouroux est un grand ami du maréchal. Donc figurez-vous que le 21 février de cette année-là, 1916, les Allemands avaient lancé une puissante offensive sur Verdun. Et donc le 24, Joffre, qui est le généralissime, envoie un télégramme à Pétain pour lui dire de venir le lendemain 25, dès la matinée, avant déjeuner, le retrouver au quartier général. Il n'est pas là, Pétain. Il était parti, il n'avait pas donné d'explication. Il avait dit à son chef de cabinet, Sérigny, je vais à Paris, sans donner d'explication. Sérigny, qui le connaissait bien, qui souriait, Sérigny qui dira, Pétain n'a jamais eu que deux passions dans sa vie, les femmes et l'infanterie. Il se doute bien qu'il est allé trouver une femme à Paris. Alors comme il faut absolument prévenir Pétain, qu'on a besoin de lui au quartier général le lendemain, ce pauvre Sérigny se rend à Paris, sait que le général descend d'habitude à l'hôtel Terminus, en face de la gare du Nord, il se présente, c'était minuit passé, la tenancière lui dit, bon, il n'y a pas, monsieur Pétain n'est pas là, enfin il insiste, il dit, je suis sûr qu'il est là. Elle finit par dire le numéro de la chambre, alors il monte, Sérigny s'aperçoit en effet les bottes de main, non pas du maréchal, mais du général à la porte d'une chambre, mais à côté il y avait de charmants petits souliers féminins. Alors il décide de ne pas l'ennuyer tout de suite, il va attendre 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, il frappe à cette chambre. Pétain arrive et on lui dit, il faut que vous partiez tout de suite, avec plus rapidement aussi. Alors il dira, ben, mettons jusqu'à 7 heures du matin, à 7 heures il s'en va et il se trouvera avant midi là où il devait se trouver. C'est là que Joffre lui apprend qu'il le nomme au commandement des troupes de Verdun. Il prend son commandement le 3 mars, le 3 mars 1916, et le 19 avril 1916, il y a encore un avancement. Le voilà qui est nommé maintenant au groupe d'armée du centre, c'est décidément sa carrière s'améliore sans arrêt, et en 1917, il y aura ses responsabilités très lourdes, qui sont les siennes, de tenter d'apaiser les mutineries. Vous vous rappelez bien qu'après l'épouvantable offensive de Champagne, on avait perdu 35 000 hommes, je crois, en 48 heures, pour bénéfice de quelques kilomètres, à peine 2 kilomètres d'avance, il y avait eu de grosses agitations. Il y avait des soldats qui ne voulaient plus remonter en ligne, perpétuellement c'était les mêmes soldats, les mêmes régiments qu'on envoyait se faire tuer, enfin des drames quoi. Eh bien, Pétain, qui est le responsable de l'opération, est très bien, je dois dire très bien, très humain. Il va comprendre que ce n'est pas possible d'envoyer perpétuellement les mêmes régiments. Il va établir un roulement. Il va décider également que les permissions seront augmentées quant à leur rythme. Maintenant, tous les 3 mois, les soldats auront le droit de la permission. Ces permissions seront allongées. Elles étaient jusqu'alors de 7 jours. Il les propulsera jusqu'à 10 jours. Et en plus, comme il connaît les hommes, il pense qu'une pluie de décoration n'est pas inutile. Tu révèles que c'est vrai, dans des circonstances très dramatiques, où il y avait une tension extrême au front, il va arriver à faire de l'apaisement. Toutefois, je voudrais appeler votre attention sur des textes peu connus, qui sont très importants, puisque deux sont de Poincaré et deux sont de Joffre, qui ont paru après la guerre, et qui sont rarement reproduits. Voilà d'abord ce que l'on lit dans les mémoires de Poincaré, tome 10, aux dates successives du 26 et du 27 mars, c'est-à-dire pages 88 et 93. Ceci. C'est Poincaré qui parle. Hein. Clémenceau me prend à part et me dit « Pétain m'a déclaré ceci, que je ne voudrais confier à personne, qu'à vous seul. Les Allemands, a dit Pétain, les Allemands battront les Anglais en rase campagne, après quoi ils nous battront aussi. » Et deuxième citation, du 27, « Pétain a dit à Loucheur, qui me la répète, à moi à Poincaré, il faut entamer des pourparlers de paix. » Et Poincaré continue « C'est la même attitude que lorsqu'il voulait, en 1916, abandonner Verdun. » Voilà ce qui va s'éclairer par les mémoires de Joffre. Mémoires de Joffre, tome 2, page 216. Vers le début d'avril 1916, je cherchais les moyens d'éloigner Pétain du champ de bataille de Verdun. Et au tome 2, sur des mémoires de Joffre, page 269, si l'histoire me reconnaît le droit de juger les généraux qui opéraient sous mes ordres, je tiens à affirmer que le vrai sauveur de Verdun fut Nivelle. C'est vrai, je vous ai dit assez rapidement tout à l'heure et un peu volontairement les dates. Je vous ai dit que c'est le 3 mars que Pétain avait été nommé au commandement des troupes de Verdun et que c'est le 19 avril que Joffre l'avait averti qu'il allait être déplacé avec un avancement considérable puisqu'il passait à la tête du groupe des armées du centre. et que c'est le 1er mai qu'il a quitté son commandement. Alors faites le calcul, hein. Il est là au commandement de Verdun depuis le 3 mars jusqu'au 30 avril, pas plus. Or, on n'ignore pas que la bataille de Verdun, elle a duré 10 mois. Et Pétain, ben, il a commandé 2 mois à Pétain. Par conséquent, je le tiens à le dire, et pas dans une intention de dénigrement, mais pour mettre les choses au point, qu'il est un peu excessif de le présenter comme le vainqueur de Verdun, puisqu'il n'a commandé là que 2 mois, et que la guerre a duré là-bas 10 mois. Eh bien, entre la fin de la guerre et 1934, puisqu'il nous intéresse, vous savez que c'est en 1934 qu'il va apparaître dans la politique intérieure française, quels sont les événements importants de la vie de ce monsieur qui est maintenant le maréchal Pétain. Ben, le premier événement important se situe en 1925 puis 1926, il s'agit de l'affaire du Maroc. Le Maroc avait été pacifié, conquis par Lyautey, vous savez qu'il s'était établi là une grande réputation, mérité sans doute. Lyautey était un maréchal maintenant, mais voilà qu'il avait à faire face à une rébellion qui était à cheval sur le Maroc français et le Maroc espagnol, le fameux Abdelkrim. Et il n'arrivait pas, il faut dire qu'il n'obtenait pas les moyens militaires qu'il réclamait, toujours est-il qu'il n'arrivait pas à vaincre cette rébellion. Alors tout à coup, le gouvernement français s'est bien levé, qui est président du Conseil, qui envoie Pétain là-bas, au Maroc, d'abord sous couleur d'inspection, et puis rapidement il va le renvoyer au Maroc en lui disant « c'est vous qui êtes chargé de la pacification ». Colère inimaginable de Lyautey, qui dit « comment on me dépossède, moi qui ai fait le Maroc français ». Et cette violence, cette dureté, cette aversion, cette haine se manifestera au point que dorénavant, Lyautey ne parlera plus jamais de Pétain qu'en l'appelant « Monsieur Pétain », et que bien des années plus tard, lorsque Pétain aurait été condamné, puis qu'un groupe s'est formé pour ça, la réhabilitation de sa mémoire, la maréchale Lyautey refusera de faire partie du groupe pour la réhabilitation de la mémoire de Pétain. Qu'est-ce qu'il avait fait là-bas? Et d'abord, pourquoi l'avait-on choisi, lui? Eh bien, on l'avait choisi un peu contre Lyautey, et même très complètement contre Lyautey. Pourquoi donc? Nous sommes en 25, hein, et en 24, il se produit quelque chose qui a été très secret, dont l'opinion n'a pas été avertie, mais que les dirigeants de la politique connaissaient parfaitement. En 1924, je voulais rappeler du reste, il y avait eu une conquête de la gauche qui avait pris le pouvoir avec M. Herriot. Ça s'appelait cartel des gauches. À ce moment-là, il y avait des gens qui avaient pris ça très mal, en particulier un certain nombre de généraux, et en particulier Lyautey. Lyautey était tout prêt à faire un putsch militaire. Il essayait de s'entendre avec des grands chefs pour renverser la République, cette République de gauche qui ne lui convenait pas. Il est allé voir Foch, et le maréchal Foch lui avait dit « oui, vous attendez bien, Foch avait dit « oui, je suis d'accord pour un putsch militaire renversant la République ». Il est allé voir Franchet d'Espéré, autre maréchal qui avait dit « oui », puis naturellement il est allé voir Pétain. Or Pétain avait refusé. Et on racontera plus tard, c'est peut-être Lyautey qui l'a dit, je n'en sais rien, la qualité même, enfin les mots de la conversation. Lyautey est chez Pétain et lui demande si une opération militaire se fait pour délivrer la République, la France, de ce gouvernement fâcheux, et que nous ayons des troupes avec nous, et que nous ayons la collaboration des plus grands chefs, que ferez-vous, vous Pétain? Pétain avait répondu, je suis loyaliste, le gouvernement français s'appelle Herriot, c'est un gouvernement légitime, et je suivrai le gouvernement Herriot, ce qui avait paru monstrueux. Eh bien on l'avait su en haut lieu, vous pensez bien. Si bien que Pétain paraissait comme l'homme le plus sérieux. Au point qu'un type comme Pierre Cotte, dont vous savez peut-être, on l'appellera crypto-communiste, on dira que c'est un marginal du communisme, il sera ministre de l'aviation sous Ploum et poursuivi de nombreuses haines, en 1935, donc longtemps plus tard, Pierre Cotte, dans un journal progressiste qui s'appelait, je crois, Vue, rendra hommage au maréchal Pétain en disant, avec Pétain, nous sommes tranquilles, c'est vraiment un républicain, c'est un loyaliste. Premier point. Alors pour le Maroc, comme il ne veut pas compromettre son prestige dans une opération qui ne serait pas immédiatement rentable, il va demander ce que Lyautey n'avait pas pu obtenir et qu'on va lui donner à bloc, lui, c'est-à-dire des renforts militaires énormes. Il va obtenir une centaine de bataillons, il va obtenir de l'artillerie lourde, de l'aviation même, et qu'est-ce qu'il a en face de lui? Les 30 000 gars d'Abdelkrim qui ont des fusils et c'est tout. Par conséquent, très rapidement, il viendra à bout de cette rébellion. Ça, c'est l'affaire nationale. Ensuite, il y a une affaire privée en 1931, voilà le maréchal qui est enfin, nommé à l'Académie française, il l'a désiré beaucoup. Mais il est nommé à la succession de Foch. Figurez-vous qu'il n'aimait pas Foch du tout, il le détestait. On m'a dit, enfin je n'en suis pas sûr, que les généraux ont l'habitude de s'entre-haïr. Toujours est-il que nous avons deux documents là-dessus, un qui nous vient de M. Isornier et l'autre qui nous vient du geôlier de Pétain, lorsqu'après la guerre il a été enfermé. Son geôlier s'appelait Joseph Simon, le maréchal le fascinait, et ce Joseph Simon prenait en note tout ce que lui disait le maréchal. Alors prenons d'abord Isornier. Isornier nous dit très gentiment, mais en atténuant les termes, enfin on peut comprendre tout de même, lorsque Pétain parlait de Foch, il employait pour dire le mot imbécile, un mot plus court, mais imprononçable. Et quant à Joseph Simon, il a entendu le maréchal lui dire expressément ceci, si quelqu'un a gagné la guerre de 14-18, c'est bien moi, et pas Foch. Alors cette succession de Foch à l'Académie française le blesse un peu, mais enfin il est académicien, c'est tout ce qu'il faut. Alors nous arrivons à ce qui nous intéresse le plus, c'est 1934, c'est l'arrivée de Pétain dans la politique française. Dès qu'il est nommé ministre de la guerre, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, parce qu'au fond, hein, Pétain n'est pas grand nom militaire. Alors pourquoi dans une affaire qui est une affaire de politique intérieure, une affaire de politique intérieure, il faut sauver la République, hein, il faut s'arranger pour que les ligues ne soient plus aussi offensives. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher, lui? Je comprends bien que s'il y avait un drame, s'il y avait une menace sur nos frontières, on fasse appel au maréchal. Mais demain, on va faire appel à Pétain alors qu'il n'y a pas de problème extérieur violent, pas de problème extérieur imminent, nous sommes qu'en 34, en 36 ça va devenir dangereux, mais pas en 34. C'est donc probablement pour des raisons de politique intérieure que demain s'est adressé à Pétain. Bien entendu, les journalistes se précipitent sur lui et demandent, monsieur le maréchal, qu'est-ce que vous comptez faire? Il a une formule, je n'ai jamais fait de politique et je n'en ferai jamais. Lorsque André François Poncet lui succédera à l'Académie, dans son discours de réception, qui est toujours consacré à un éloge du prédécesseur, François Poncet ne manquera pas de dire « Pétain avait toujours ignoré la politique et s'en était retenu à l'écart ». Ce n'était pas tout à fait vrai. Mais auparavant, il faudrait que je vous dessine le personnage tel qu'il se présente à 78 ans. Il a 78 ans lorsque le voilà enfin ministre. Il est grand, c'est un homme qui a environ 1m80, presque 1m80. Malgré sa vieillesse, il se tient très droit. Il est, comme on dit, droit comme un nid. Il est très fier de sa santé, il en parle volontiers, avec ses facilités militaires de langage. Il dit « je pisse comme un renard » pour dire qu'il n'y a pas de problème de prostate. Dans un salon, il aime assez enjamber le dossier d'une chaise pour montrer enfin quelle souplesse est la sienne. Il est spécialiste, dit-on, enfin, ces faillols qu'il raconte et d'autres de plaisanteries de l'Est. Enfin, il aime les, comment est-ce qu'on appelle ça, des gauloiseries, plaisanteries de l'Est qui, quelquefois, sont chez lui assez lourdes. D'autre part, c'est un homme mystérieux. Je veux dire par là, et je n'ai jamais cherché des documents que chez ses amis, hein, je ne vais pas aller chercher chez les adversaires de Pétain des détails qui seraient malveillants. Alors je prends un renseignement que je trouve chez Lemery, dont je vous reparlerai. Lemery était un ami intime, et qui dit qu'il n'y avait pas d'homme plus secret. Quant à Boutillier, qui sera son ministre des Finances du temps de Vichy, Boutillier dira qu'il était d'une rare capacité de dissimulation. Sa femme dira plus tard, mon mari est une vieille ficelle. Je voudrais simplement appeler votre attention sur un fait, sur un comportement de Pétain. J'ai bien regardé son... Je ne l'ai jamais vu personnellement, sinon de loin une fois à Vichy. Mais je regarde ces images, ces photos, et je m'aperçois qu'il a une belle moustache blanche, il a un beau visage souvent marmoréen, mais il n'a pas de regard, figurez-vous. C'est un homme sans regard inexpressif, comme s'il s'interdisait de laisser passer quoi que ce soit à travers son regard. Bien, alors cet homme qui ne fait pas de politique, le voilà qui est au ministère, et qu'est-ce qu'il va faire tout de même pratiquement? Bien, au ministère, il ne fait pas grand-chose, en ce sens qu'il est un personnage muet. C'est le personnage le plus considérable, le personnage, hein, puis c'est son prestige de maréchal. On l'écoute quand il veut bien parler, mais il parle rarement. Cependant, il va parler deux fois et dans des circonstances importantes. Première fois que je vous raconte ça en détail, parce que ça a bouleversé tout le monde, il s'agissait du ministre de la Justice qui s'appelait Chéron. Un gros pansu, il était très attaqué par la presse de droite parce qu'on prétendait qu'il n'était pas assez actif pour punir les gens qui étaient compromis dans l'affaire Stavisky. En plus, il y avait l'histoire du conseiller Prince, peut-être vous rappelez-vous, c'est un conseiller Prince dont on se demandait s'il avait été assassiné, s'il avait eu un suicide. Suggère-t-il que le père Chéron, c'est l'objectif principal de la droite et de l'extrême droite. Et voilà, tout à coup, absolument à l'improviste, un maréchal, au cours d'un conseiller des ministres, dit « il y a parmi nous un poids mort ». Il dit ça en regardant le père Chéron. Puisqu'il a été regardé, Chéron dit « c'est pour vous ?» Il dit ça. « Oui, c'est pour vous !» dit le maréchal Pétain, qui n'était pas l'habitude de cette violence. Tout le monde est stupéfié, et en présence d'un homme pareil, enfin, évidemment, s'incline, et Chéron va donner immédiatement sa démission. Alors, il faut savoir que Pétain avait son candidat tout près pour le remplacer à la justice. Il s'appelle Lemery. Lemery, c'est un sénateur de la Martinique, c'est un homme tout à fait d'extrême droite, et qui, juste avant, le 6 février, avait publié, je ne sais pas où, un article dont le journal des assomptionnistes, qui s'appelle La Croix, avait d'une déclaration admirable en disant « c'est un admirable, c'est un prodigieux réquisitoire ». Réquisitoire contre quoi? Contre la République maçonnique, la République tout court. Alors vous voyez, c'est un ennemi de la République, c'est un personnage d'extrême droite qui s'appelle Lemery et que Pétain fait placer à la justice. Mais ça, c'est moins important que ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est la deuxième intervention de Pétain, il s'agit du remplacement du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de Doumer, il s'appelait Barthou. Et Barthou, à la date du 17, je crois, au mois d'avril 1924, avait annoncé une modification très sérieuse de la politique extérieure française. Il avait envoyé une circulaire à tous les postes diplomatiques en disant, grosso modo, ce que je vais vous dire dans un langage, lui, diplomatique, il disait, nous avons essayé, plus ou moins, depuis la fin de la guerre, d'appliquer les principes Wilson, c'est-à-dire le principe de la société des nations, autrement dit, arbitrage obligatoire et sécurité collective. Ben, il n'y a plus moyen. depuis ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire depuis janvier 1933, depuis qu'Hitler est au pouvoir, on s'aperçoit que l'Allemagne ne veut plus jouer le jeu de la Société des Nations. Du reste, Hitler a retiré l'Allemagne de la SDN en septembre 1933. Il est en train de réarmer ouvertement son pays. Enfin, il déchire pratiquement le traité de Versailles. On ne peut rien faire avec un homme pareil. Il faut revenir à la vieille politique, la politique des pactes bilatéraux. Ça veut dire quoi? Ben avant 1914, depuis quoi, l'entente cordiale, c'était 1903, jusqu'en 1914, la politique extérieure de la France avait été la suivante. Il y avait déjà une Allemagne considérée comme menaçante avec Guillaume II, moins menaçante que celle de Hitler, c'est entendu, mais enfin menaçante. Elle a décidé pour essayer de la contenir, de la dissuader, quoi, de la prendre dans une pince. D'un côté, il y avait un puissant et étroitement lié bloc franco-anglais, et de l'autre côté, c'est-à-dire à l'Est, il y avait la Russie tsariste. Si bien qu'il y avait pratiquement un encerclement de l'Allemagne, et qu'on estimait que cet encerclement serait suffisant pour retenir Guillaume II. Ça ne leur tiendra pas, du reste, la responsabilité de la guerre, c'est un problème très complexe. Enfin, le père Barthoud dit, il faut essayer de revenir à l'égard de ce dangereux Hitler, à la politique de dissuasion que nous avions tenté de faire précédemment. Politique de dissuasion, oui, mais seulement il y a un drame, c'est que du côté de la Russie, c'est plus la Russie tsariste, si confortable, si tranquille, c'est une Russie épouvantable, c'est la Russie communiste. Je le connaissais, le père Barthoud, parce que je suis un peu collectionneur d'autographes, lui aussi, on échangeait des collections, il me recevait chez lui. Il m'avait dit une fois, vous savez, pour la sécurité de la France, je suis prêt à mettre ma main dans celle du diable. Et il voulait dire, évidemment, dans la main de Staline. Pourquoi faisait-il ça? Parce qu'il avait lu Mein Kampf, et il pensait que Staline l'avait lu aussi. Et que dans 1924, Mein Kampf, de Hitler, avait exprimé ceci, à l'égard de la France, je lui reprendrai la Lorraine. Et même au-delà, il avait l'intention de prendre une partie de la Champagne. Et attention, à l'égard de la Russie, disait Hitler, il y a une partie du territoire dit russe qui appartient à notre Lebensraum, hein, ça veut dire l'espace vital, en particulier Biélorussie, Ukraine, etc. La Russie était donc avertie par Hitler, qu'Hitler avait l'intention de lui prendre de nombreux territoires. Si bien que la Russie était, comme nous, menacée. Alors le raisonnement très logique du père Barthoud, c'était ceci, que la Russie soit une Russie tsariste ou que la Russie soit une Russie communiste, elle défendra son territoire. Ce territoire est menacé par Hitler, donc on va lui proposer un pacte uniquement militaire. Et il était assez anticommuniste, le père Barthoud, pour dire hein, on va se protéger, hein. Il ne s'agit pas de laisser une contagion. Mais le Parti communiste sera bien obligé de suivre, puisqu'il est très docile. Alors, il s'agissait de savoir comment on allait remplacer Barthoud, parce qu'il avait disparu. Il avait disparu le 9 octobre 1934, que je vous rappelle les choses, il avait été tué, alors que ce n'était pas lui qui était visé. Ils étaient allés à Marseille pour recevoir le roi Alexandre Ier, qui est le roi de Yougoslavie. Et il y avait eu un attentat, je ne sais quel Oustachi, comme on dira plus tard, s'était jeté sur la voiture où il y avait le roi, et à côté du roi, naturellement, il y avait Barthoud. Plusieurs coups de revolver avaient été tirés, le roi était mort sous le coup, mais Barthoud avait aussi reçu des coups de revolver. Naturellement, on s'était empressé auprès du souverain, mais on n'avait pas pensé que Barthoud était en train de perdre tout son sang. Si bien quand on avait pensé à lui, et qu'on l'avait enfin emmené à l'hôpital, c'est trop tard, il allait mourir. 9 octobre 1934, disparition de Barthoud. Un problème grave, hein, se pose de savoir qui on va mettre aux affaires étrangères. Alors là, il faut que vous sachiez la vérité. C'est encore une fois où Pétain va apparaître, lui le silencieux, muet d'habitude, marmorien, mais ses paroles sont recueillies comme des mots d'oracle. Hein. Il va dire, quant à moi, je conseille de prendre aux affaires étrangères M. Pierre Laval. Ah, quand on sait ce que sera la politique de Laval, et même avant Vichy, la politique extérieure dont j'aurais voulu parler, il est intéressant de savoir que si Laval a eu le pied à l'étrier, s'il va devenir là, président, enfin, ministre des Affaires étrangères et bientôt président du Conseil, c'est à Pétain qu'il le devra. Je peux vous dire tout de suite, lorsque Pétain va prendre le pouvoir en 40 et qu'on l'interrogera sur Laval, il dira, je suis le type qui faisait mes commissions. Non, non, c'est quelqu'un avec qui il était étroitement lié et qui lui devait pratiquement sa carrière. Or, il sait très bien, Pétain, que Laval n'est pas du tout disposé à faire la politique de Barthoud du côté de la Russie. Cette politique est très mal vue dans les hautes sphères, enfin, chez les gens convenables. Par exemple, monsieur Gaxot, qui est aujourd'hui encore par bonheur membre de l'Académie française, avait à ce moment-là, lorsque Louis Barthoud avait fait rentrer Staline à la Société des Nations, il avait fait dans Candide, je crois, un article où il disait « Admettre l'URSS à Genève, c'est comme faire entrer un lépreux au salon ben ». C'était la même pensée qu'avait M. Pétain d'une part et M. Laval d'autre part. Si bien que Laval va bien aller jusqu'à Moscou pour signer ce pacte militaire franco-russe, mais avec l'intention de ne pas l'appliquer, et surtout pour obtenir de Staline une déclaration qui va mettre dans ses pissoulis, si j'ose dire, le Parti communiste français. En effet, on va obtenir de Staline qu'il ne verra aucun inconvénient à ce qu'on l'imprime, à ce qu'on déclare une phrase par laquelle Staline dit « Je trouve que j'approuve la France de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, en particulier la France vient de revenir au service militaire de 2 ans ». Ça ennuiera beaucoup les communistes. Ma commission, vraiment des gens très obéissants, figurez-vous qu'en juin 1934, à la Chambre, Thorez, chef des communistes, avait fait la déclaration, la vieille déclaration de Marx dans le manifeste communiste, les prolétaires n'ont pas de patrie. Mais étant donné que maintenant la position des Russes ont changé, on va voir M. Thorez dire, mais sommes patriotes comme les autres. Enfin, c'est ce qu'avait voulu le père Laval. Bien, voilà ce qu'il va faire, mais j'ai encore deux choses au moins à vous dire sur Pétain au pouvoir. Il est d'usage, je crois, dans toutes les nations, qu'un chef d'un département ministériel s'occupe de son département, et pas des départements voisins. Or, Pétain, qui a son département ministériel de la guerre, va s'occuper de ce qui se passe à l'éducation nationale. Et on possède même des notes, qu'il avait remis à son collègue de l'éducation nationale pour rappeler son attention, une attention étroite, disait-il, sur ce qui se passe dans l'enseignement français. Aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire, il y a des gens insupportables qu'il faut surveiller de près. Ce sont les subversifs qui sont là. Je ne sais pas si le ministre en a pris attention, mais c'est intéressant de savoir que Pétain l'avait fait. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, qui est peut-être la plus importante tout de même, puisque c'est le ministère de la guerre, quoi, ben c'est deux choses qu'il a faites pour les crédits de défense nationale. Hitler est au pouvoir depuis un an et demi déjà, et les crédits de guerre sont de 603 milliards, non millions, 603 millions. Cette époque-là comptait en milliards, etc. Ben savez-vous que le maréchal n'emploiera que 470 millions sur les 603, 470. Et d'autre part, il y a la question de Gaulle et du projet qu'a présenté le capitaine, non, il était commandant, le commandant de Gaulle dans son livre qui s'appelait « Vers une armée de métiers ». Notez que c'était un mauvais titre, « Armée de métiers », ça pouvait faire penser à des mercenaires, à des prétoriens, si bien que la première réaction d'un homme comme Blum avait été hostile, en disant « Mais non, l'armée, c'est l'armée nationale, quoi, c'est la conscription ». Le titre était maladroit parce que simplement, de Gaulle avait l'idée suivante. Il envisageait les prochains conflits comme donnant une place considérable aux chars. Nous avions des chars, disait-il, en France, mais il faudrait les réunir, non pas les éparpiller dans les régiments, mais les réunir dans de puissantes unités blindées, des divisions cuirassées, comme il disait. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'effectivement, vous savez peut-être que le 10 mai 40, lorsque les Allemands attaqueront, ils avaient avec Guderian 15 divisions blindées, la France n'en avait à ce moment-là que 2,5, c'est tout. Mais enfin, lorsque le jeune commandant de Gaulle a dit « il nous faudrait des divisions blindées », et pour faire marcher ces divisions blindées, il faut des spécialistes, il faut des mécaniciens. Il faut des gens qui savent ce que c'est que le maniement d'un tank. Par conséquent, je demande qu'elle ait une armée spécialisée, avec des gens qui souscriraient un engagement de 10 ans, ou peut-être de 5 ans seulement, mais enfin des spécialistes. Ben, figurez-vous que ça a été refusé par le haut état-major. Ça a été refusé par Pétain et refusé par Weygand. Weygand, depuis 1931, était devenu, je dirais ici, à son tour, enfin, celui qui, en cas de guerre, dirigeait les armées, parce que Pétain était trop vieux. Et Weygand avait fait une opposition dont il est intéressant de vous dire la raison principale. Weygand disait, il est intelligent et très gentil, ce commandant de Gaulle, c'est un jeune homme, il ne se rend pas compte, il ne voit pas ce qu'il propose. Pensez donc, il va nous demander, à nous, armée française, d'entretenir, chez nous, dans l'armée française, 40 000, c'était le chiffre qu'avait fixé de Gaulle, 40 000 spécialistes, 40 000 mécaniciens qui feront partie de l'armée française, et à demeure, enfin 5 ans ou 10 ans. C'est insensé, disait Weygand. 40 000 ouvriers dans l'armée française. Mais c'est un bouillon de culture pour le communisme. Si bien que l'opposition du haut état-major aux divisions blindées vient d'une opposition de politique intérieure. Doumergue va tomber en novembre 1934 parce que Herriot l'a abandonné. Je sais que Pétain n'est pas content. Il dit « voudriez vous obstiner ». Pas moyen de s'obstiner, vous savez. Le jeu parlementaire, c'est que quand un parti vous retire votre soutien, vous ne pouvez plus continuer. Et Pétain voudrait pousser Doumergue à faire une espèce de coup de force, à se maintenir, et Doumergue n'ose pas. Mais peu de temps après, voilà qu'un socialiste, lui, qui s'appelait Bouisson, a l'idée de lancer un nouveau cabinet, soi-disant socialiste, pour lequel il a demandé la collaboration du maréchal, et le maréchal a accepté. On ne sait pas assez, mais il faut savoir que Bouisson avait annoncé que dès qu'il aurait constitué son ministère, il mettrait la Chambre en congé illimité. Il ne dirait pas illimité, mais ça veut dire qu'il la fermerait pratiquement en disant « telle est la situation que le parlementarisme aujourd'hui s'est dépassé ». De quoi se frotter les mains pour le maréchal, il a dit oui tout de suite, mais malheureusement ce minable cabinet s'est présenté à la tribune et a été renversé le jour même de sa présentation. Si bien que c'est la deuxième fois, que Pétain essaye d'être ministre, la première fois ça a bien réussi, la deuxième fois ça n'a pas réussi. Mais j'ai encore une chose à vous dire, c'est ce qui s'était passé le 3 décembre 1934 au fameux dîner annuel ou banquier annuel, je ne sais pas, de la Revue des Demandes. Nous devons ce détail à Isorny dans son livre très considérable et très important et très loyal aussi sur le maréchal. Sans Isorny, je n'aurais pas su s'il est passé ce 3 décembre. Tous les ans à Paris, c'était vraiment un phénomène parisien que ce banquet de la Revue du Monde. Tout Paris y était, vous savez, tout ce qui comptait, le cardinal Baudrillard, le préfet de police, Chiappe, et Dieu Weygand, bien entendu. Et ce jour-là, 3 décembre 1934, l'invité d'honneur, c'était le maréchal Pétain. Alors Isoni nous dit, le maréchal Pétain est arrivé non pas en costume de maréchal, il aurait pu choisir, non, en costume, je cite, c'est d'Isoni, en costume de chef d'État. Il était là en habit, enfin, en habit de soirée, et il avait son plastron blanc qui était traversé du cordon rouge de la Légion d'honneur, il avait là un chef d'État. Et il a prononcé un discours politique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'Isoni, un discours politique. Et je vais le résumer, il tient en quelques lignes, vous auriez pu le lire dans la Revue des Deux Mondes, qu'il a publié le 15 décembre, je crois, entièrement sur l'éducation nationale. Et entièrement sur le danger de ce qui se passait dans l'éducation nationale. Mais il faut surveiller de près les, ses fonctionnaires, en particulier d'enseignement secondaire, mais surtout dans l'enseignement primaire, parce qu'il y a des subversifs. Et ce que je demande, disait le maréchal, c'est qu'à l'école, on enseigne d'abord la discipline et le respect des hiérarchies. Je voudrais que l'école fût l'antichambre de la caserne.